Welcome. You will never forget.
Tous les sens sont permis. Tous les sens sont permis. Tous les sens sont permis.
Tous les sens sont permis.
Et tous les sens sont permis.
Bonjour, c'est Christine. Je suis avec Sylvie, Johnny, Manu et Kevin.
Bonjour tout le monde, bonjour.
Bonjour.
Pour cette seconde émission, nous poursuivons notre plongée dans le punk, ses origines, sa musique, sa philosophie et ses codes.
Nous remercions pour leur participation Jean-Luc, punk de la première heure ou presque, et
Franck de Kengo, co-directeur et co-programmateur du festival Sonic Protest, spécialisé dans les pratiques brutes de la musique.
Mais tout de suite, nous rejoignons Kevin à l'origine de ce reportage.
Oui, et celui-ci, vous l'entendrez dans quelques instants, démarre sur les chapeaux de roue. Eh oui, comme tout bon punk qui se respecte, mes deux interlocuteurs ont immédiatement explosé le cadre de l'interview. Ils n'ont attendu ni d'être présentés, ni d'être invités à prendre la parole. Bon, rock'n'roll, quoi.
Punk, bon, bah, c'est quatre lettres, hein. Mais avec une histoire phénoménale. Mm. Phénoménale. C'est-à-dire, les origines du punk rock, moi, je dirais que bah, dans les années 1950, est-ce que le déhanchement d'Elvis Presley, les gesticulations de Chuck Berry ou de Jerry Lewis, c'était pas les premiers gestes punk de l'histoire du rock.
C'est quoi le punk pour vous, alors, du coup, Jean-Luc?
Pour l'instant, on est à... arrive. On est à, à l'origine.
Le mot punk n'existait pas à cette époque-là, mais le mot punk existe avant 77, et ça désigne justement quelqu'un qui a un comportement socialement... un peu déviant, ou... c'est-à-dire qu'avant que la musique, que ce soit rattaché au mouvement musical, ça existe comme une insulte ou un... Et ça, je pense, ça.
Oui, il y a plusieurs significications du mot punk. Hein,
dans les westerns de John Wayne.
Ouais, par exemple. Plus, ouais. C'est-à-dire que le mot punk dans les années 60, on n'entend pas parler. On appelle ça plutôt du rock garage, quoi.
Et si on parle de musique, mais
ouais, musicalement.
D'un comportement d'une personne qui est un peu en dehors, qui se comporte pas bien en société, ou qui a c'est ça qui va être après rapproché à la musique, quoi. Qui va être, enfin, disons que ça va coller à la musique, mais je pense que j'ai l'impression, enfin, j'ai pas de, mais moi, je me souviens que il me semble que dans certains films, là, je parlais de John Wayne, je sais plus si c'est dans les films de John Wayne, mais où il y a déjà des types qui sont appelés punk, pas par rapport à la musique ou aux cheveux ou je sais pas quoi, mais par rapport à un comportement un peu déviant, quoi.
Moi, j'ai entendu beaucoup de significations du mot punk, ce qui fait que finalement, j'en ai retenu aucune, parce que la seule que je connaissais, c'est que selon la légende, le mot punk aurait été prononcé pour la première fois au cours du premier concert des Ramones en 1974 au CBGB de New York. Alors ça, moi je vous dirais que les Ramones ne se sont jamais autoproclamés groupe punk. Hein. Si on les a qualifiés de punk rock, c'est tout simplement le public en 1974, quand ils ont vu rentrer dans le CBGB. Il va y arriver quatre jeunes gens qui venaient du Queen avec des tenues vestimentaires spécifiques, blouson noir, jean. Ça les a interpellés parce qu'on est quand même dans les années où on est encore dans les années Woodstock, quoi, où le CBGB est occupé en majorité par les hippies, quoi.
Cheveux longs.
Ouais, bon, ouais. Parce que quand ils ont vu arriver, ils se demandaient qu'est-ce que c'était exactement. Ils n'avaient jamais vu ce type de personnes avec les accoutrements qu'ils avaient. Déjà, il y avait ça qui interpellait le public. Et quand ils les ont vus jouer, alors là, bah, évidemment, là, ils ont pris comme une joute parce qu'on est encore dans les années où c'est plutôt des groupes Baba Cool qui jouent, des groupes hippies, tout ça. Donc, c'est pas. Ils avaient quand même une façon, ils jouaient quand même garage, quoi, sur quelques accords. Et c'était assez. On n'avait encore jamais vu ça, quoi. Et c'est le mot punk aurait été prononcé pendant ce temps-là, dans le public, parce qu'il fallait trouver un nom à ce nouveau style qu'ils voyaient, quoi. Et ils disaient, c'est sale comme rock. Alors, ils appelaient ça du rock sale, quoi. Du sale rock, du rock sale. Donc sale, en anglais, on traduisait ça par punk, quoi. Enfin, du moins comme ça, en 74, quoi.
C'est les journalistes, quoi, aussi, qui avaient besoin aussi de donner un nom. Enfin,
Non, c'est le public.
Public d'abord,
c'est le public qui était là sur place, parce qu'il découvrait ce style-là, donc c'était nouveau, c'était du rock garage, quoi, mais vraiment...
Brutal.
Ouais. D'ailleurs, avant que le terme punk rock soit officialisé, dans les années 1970, on appelait cela le garage rock, hein. Donc dans les années 60... Le fait de jouer en rythmique sur quelques accords dans des endroits particuliers, comme les caves. Donc à savoir aussi que les premiers groupes punk américains étaient issus du mouvement hippie. Donc l'apparition des Stooges et du MC5 à la fin des années 1960 récupérera une partie des hippies qui se radicaliseront musicalement en proto-punk en quelque sorte.
Ça, c'était où, alors, les Stooges et...
Alors, les Stooges et le MC5, ça se passe à Détroit. Ça se passe à Détroit en 1968. Donc, ils vont donner un concert que j'emploie le mot dévastateur. Pourquoi ? Parce que, musicalement, c'est très électrique. Et quand on écoute ce concert, on a l'impression d'entendre les Sex Pistols 10 ans avant l'heure, quoi.
Kick out the jams,
voilà.
Motherfucker.
C'est de là que tout est parti, comme je vous entendais dire la dernière fois, Détroit.
Et alors, qu'est-ce qu'ils avaient, le MC5
de particulier ?
Ouais, qu'on ne trouvait pas, par exemple, chez les Ramones, ou qu'on ne trouvait pas...
Alors, ce qu'ils avaient, c'est que...
C'est avant, hein ? C'est avant.
C'est même bien avant les Ramones.
C'est ce qui va...
C'est bien avant les Ramones. Et en fait, quand le concert s'est déroulé, si on entend le début du concert... On a l'impression d'entendre un discours à caractère syndical qui consiste à expliquer aux hippies que s'ils veulent que les choses changent, il va falloir se bouger, quoi.
Ce qui est intéressant, c'est un parallèle qu'on fera peut-être après, mais c'est qu'avec le MC5, il y a un manager aussi qui est très très engagé justement politiquement, un peu comme les Sex Pistols vont avoir McLaren, et qui va faire de la prison parce qu'il a des pensions d'un joint et qui porte vachement aussi le groupe dans cette direction-là, un peu avec les Black Panthers, avec tout ce, tout cette, toute cette révolte. Et c'est aussi une période, aussi, la fin du mouvement hippie, c'est aussi au moment où Charles Manson débarque, commence à avoir des gens qui le... Enfin, un côté un peu secte, etc. Et puis, c'est des hippies qui commettent des crimes. Et là, du coup, là, on comprend plus rien, parce que normalement, c'est peace and love, et des hippies qui deviennent tueurs, là, ça fout un peu le bordel.
Charles Manson, c'est le...
C'est ceux qui ont tué... représentant d'une secte.
Comment, c'est Roman Polanski, c'est ça ou,
La femme de la Sharon femme... Tate, enceinte.
Ouais.
Et Manson, c'est une petite aparté, mais Manson faisait aussi de la musique.
D'accord.
Ah ouais. Il avait un espèce de projet un peu hippie comme ça, mais qui était aussi assez noir, assez, ses chansons c'était assez dark, justement par rapport à un truc Flower Power, il était déjà aussi lui-même dans un univers musical un peu... D'ailleurs, ça me fait penser à un truc, moi il y a un truc qui me fascine, c'est l'écart qu'il y a entre le troisième album des Stooges, c'est Raw Power, et le premier album punk. Parce que c'est 73,
ouais.
Si je dis pas de bêtises, le dernier album des Stooges, et le punk c'est 76, enfin les albums sortent en 77. Et là, il y a un trou, je trouve, en 75. Qu'est-ce qui se passe en 75? Ça m'a toujours étonné que c'est pas, qu'il n'y ait pas eu une résonance aussi.
En 75.
En même temps, je crois que les Ramones existent déjà.
On pourrait plutôt dire le trou que vous évoquez. Je pense qu'il est occupé quand même, mais ça se passe à New York, au CBGB. Parce qu'à New York, entre 1970 et jusqu'à la fin des années 70, il y a toute une scène qui occupe. La scène est occupée, quoi. Il y a beaucoup d'artistes qui occupent la scène du CBGB de New York. C'est-à-dire, on va assister, il y a les fameux Ramones, hein, mais il y a les Dead Boys, il y a les Heartbreakers, il y a Johnny Thunder. Mm. Donc, il y a quand même pas mal de monde à New York. Les New York Dolls, qui sont managés par Malcolm McLaren à l'époque.
Déjà.
Il est déjà dans... Ouais. Il a déjà ses points de repère, quoi. Et donc, il y a les fameux Television aussi, donc, Television, ouais. Où il y a eu le chanteur qui est décédé récemment. Donc, il y a quand même pas mal de monde. Il y a Patti Smith, qui est issu du milieu hippie, et qui est là. Et il y a évidemment Andy Warhol, et puis il y a aussi tous les gens du Velvet Underground qui œuvrent régulièrement au sein du CBGB.
Il y a une scène un peu, alors ça vient peut-être des écoles d'art, etc., mais Television, tout ça, c'est aussi assez un télo, enfin, c'est une espèce de rock un peu savant, enfin, qui est plus hippie, mais qui n'est pas aussi sauvage que vont l'être les Ramones.
En fait, c'est ça qui va se passer là-bas, c'est que les gens vont s'ennuyer, vous voyez, ils vont s'ennuyer, c'est pas qu'ils n'aiment plus du tout la scène de là-bas, enfin des groupes Woodstock, tout ça, mais c'est, on va dire que ça va être un déclencheur, quoi. Ça va être un élément déclencheur du punk, en tout cas new-yorkais, quoi.
Et il y a aussi la drogue qui va faire son...
Malheureusement,
D'un coup, on change de drogue aussi.
Oui, exactement.
Il y a l'héroïne qui arrive et il y a des choses plus... et le Velvet est quand même va véhiculer aussi pas mal ce côté-là. Et c'est une noirceur qui va aussi éteindre justement le mouvement hippie, parce que ça amène quelque chose de plus dur, plus urbain, plus...
Oui, c'est comme vous dites, vous avez raison, c'est malheureusement un ingrédient de cette période-là, du punk rock qui va exploser à New York, l'arrivée de cette drogue épouvantable, l'héroïne, qui a un début des années 1970. Donc il va vraiment...
Parce qu'il y avait beaucoup de drogue dans le mouvement hippie. Ouais. Mais du coup, c'était plus les drogues LSD, machin. Il y avait un truc plus libération de l'esprit. Alors que avec l'héroïne, ça devient un truc beaucoup plus dur, quoi. Il y a un truc. Et ça se ressent aussi dans la musique.
Seront tous consommateurs, hein, de toute façon. Mmh. Hein, pratiquement toute la vague punk new-yorkaise, tous les artistes ils sont dans l'excès, quoi. Ils vivent dans l'excès, et malheureusement, avec cette drogue épouvantable, quoi, qui va faire des ravages à New York. Hein, en même temps, si vous voulez, les excès, Moi, je pense pas que que ça soit les groupes punk ou le public. Je pense pas que c'est eux qui ont eu le monopole des excès, parce que les excès, ça a toujours existé, surtout dans le rock'n'roll. Donc, on pourrait appeler ça plutôt la rock'n'roll attitude, quoi. Mais
ouais, mais là, c'est plus de ce que je comprends, c'est plus qu'il y a. Il y a, que ce soit dans les sons choisis, enfin la musique, que ce soit dans la consommation des drogues qui change, ou peut-être le contenu aussi des paroles, il y a une noirceur qui arrive, il y a quelque chose comme ça qui se joue. Parce que c'est vrai que le Velvet Underground, c'était quand même des paroles particulièrement provocatrices par rapport à ce qui pouvait être raconté dans les paroles des groupes hippies.
Même dans le son aussi des guitares hein, qui deviennent de plus en plus saturées avec des Larsen, avec de ce qu'on disait aussi sur l'énergie du MC5 ou des Stooges, ça il y a une radicalité dans le son aussi qui
on laisse tomber les solos aussi à rallonge, les trucs hyper techniques qui duraient 10 minutes.
Ça, pour le coup, c'est vraiment les Ramones qui vont enterrer tout ça.
Ouais, d'accord.
Ouais. En effet, ouais. En effet. 1, 2, 3, 4 Lou Reed, il disait, on veut changer la donne. Il disait, donc il crée autre chose, innover dans des autres sons, une autre formule de musique, quoi. Et c'était l'objectif du Velvet Underground. D'ailleurs, ils œuvraient avec le célèbre artiste peintre Andy Warhol. C'est à lui qui produira le premier album du Velvet Underground en 1966.
Ouais, mais qui pour autant, enfin si je dis pas de bêtises, a fait un flop commercial carabiné, le premier album. C'est ça qui est dingue, c'est que on en parle encore aujourd'hui du Velvet Underground, alors que à l'époque c'est passé relativement inaperçu.
Ouais, c'est vrai, ouais.
Ah, c'est trop radical.
Ouais.
Ça arrive. Mais c'est marrant parce que on parlait de Malcolm McLaren ou de Sinclair pour le MC5, il y a souvent comme ça une personnalité très importante qui est un peu plus vieille, qui chapeaute aussi ces jeunes fougueux.
Là, c'était Andy Warhol.
Et là, c'est Warhol avec le Velvet qui va aussi créer tout l'univers avec la Factory, toute l'ambiance autour du groupe. Donc ça, c'est vachement important, comme McLaren va avec les New York Dolls, mais aussi avec les Pistols, créer tout un univers.
Ouais, ouais. D'ailleurs, les New York Dolls, d'ailleurs, qui finiront par se séparer, et des cendres des New York Dolls, il y aura donc Johnny Thunders, qui va fonder un groupe qui s'appellera Johnny Thunders and the Heartbreakers, qui sera ouvertement un groupe de punk rock, à la différence des New York Dolls, qui était plutôt un groupe de glam rock, quoi.
Et du coup, là, on est dans les années 74-75.
Oh, bah, si on parle des New York Dolls, on serait plutôt, voire même début des années 70.
D'accord.
On n'est pas loin, attention de ce que vous dites, hein, puisqu'entre 1970, 74, 75, il n'y a pas beaucoup.
Et on est à New York.
Si on regarde la discographie de ces musiques, je reviens un peu sur mon obsession, mais l'année 75, il n'y a pas. Parce que le dernier album des Stooges et MC5, je pense que c'est 73, 74. Mais il y a 75, il y a vraiment
un creux.
Trou, quoi.
Ouais.
En discographie, hein, je parle.
Ah oui, en discographie.
Et après, il y a les Ramones qui déboule en 76, mais je pense que leur premier album sort en 77, ou peut-être mais déjà 76.
C'est-à-dire qu'il a fallu un certain laps de temps.
Peut-être que les labels n'étaient pas prêts aussi à sortir.
Ouais, voilà, enfin, c'est là où je voulais en venir. Il a fallu un certain laps de temps avant que l'industrie musicale s'intéresse au punk rock, quoi, qu'il commence à produire des groupes de punk rock.
Le punk est mort, alors vive le punk! Nos deux passionnés ont décidément beaucoup de choses à se raconter. Nous les retrouverons donc dans la suite de cette série d'émissions dédiées au punk. Ils nous parleront entre autres de l'industrie musicale, des labels indépendants, des deux premières vagues punk et de l'émergence du punk en France.
Vous avez pu entendre quelques extraits musicaux de groupes phares de la scène rock garage et punk rock américaine.
Il s'agissait de Marky Moon de Television, Kick Out the Jams du MC5 et Blitzkrieg Bop des Ramones.
Nous terminons cette émission en musique avec les miroirs du groupe Polystyrène, fruit d'un atelier musical animé par Julien Laurent pour le service d'activité Frontières.
À bientôt pour la suite.
À bientôt.
Tous les sons sont permis.
Tous les sons sont permis.